La grande approche. La grande approche, cette émission est consacrée au maître de sagesse qui tente de se faire connaître ouvertement du public afin de prodiguer des conseils qui nous permettront de dépasser la crise du monde moderne. Nous tentons dans cette émission de définir ce qu'on entend par maître de sagesse et puis de montrer ce vaste mouvement de rapprochement qui s'opère entre d'un côté un groupe d'êtres qu'on appelle des maîtres de sagesse dans certains jargons, une sorte de règne supérieur de la nature, et puis de l'autre côté l'humanité, les hommes que nous sommes. Dans Olivier Danès au micro, notre invité aujourd'hui, vous le connaissez bien, chers auditeurs, puisque c'est David Goulois, David avec qui nous animons une autre émission sur cette même station. David, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour aux éditeurs.
Alors, ces maîtres, ces fameux maîtres de sagesse auxquels on aimerait bien ressembler, ils semblent être des hommes parfaits ou devenus parfaits, et on nous dit d'ailleurs qu'on y arrivera. Ils ont une caractéristique qui doit faire rêver plus d'un, c'est qu'ils sont immortels. Immortel. Cette immortalité, alors ça peut sembler parachuté comme ça, mais ça, elle est attribuée à des êtres qu'on appelait peut-être pas des maîtres de sagesse, mais dans d'autres traditions. La plupart des traditions ont cette notion qu'il existe des hommes devenus immortels, David ?
Oui, l'immortalité, c'est vraiment la note clé, le point essentiel de l'hypothèse de l'existence des maîtres de sagesse, s'ils existent. Qu'ils demeurent, qu'on parle d'eux depuis des milliers d'années, c'est que, en tout cas depuis des siècles, sûr, c'est que ils doivent exister, donc ils doivent perdurer, donc ils sont immortels. Et si on accepte l'immortalité, il n'y a plus aucun problème pour accepter l'existence des maîtres de sagesse. L'immortalité, oui, elle est présente dans les traditions anciennes, dans les mythologies, on parle des dieux. Alors les dieux, on peut les comprendre de plein de manières différentes, comme des planètes, des constellations, mais aussi comme des êtres sur Terre. Alors après, il y a la mythologie populaire qui les avilit un peu, qui en fait parfois, qui leur prête des passions très humaines. Mais si on en reste souvent aux mythologies de base, avant qu'elles évoluent ainsi, donc les dieux se trouvent derrière l'évolution humaine et ils sont immortels justement. Et les demi-dieux ou les héros sont ceux souvent qui, dit-on dans la mythologie grecque par exemple, qui sont nés d'un père ou d'une mère mortel et d'un dieu ou d'une déesse. Et symboliquement, ça représente les deux natures en l'homme. Une nature spirituelle qui est immortelle et une nature terrestre qui est vouée à la mort, au vieillissement, à la mort. Donc les héros sont en quelque sorte des initiés, ceux qui ont commencé déjà à se marier quelque part.
Ceux qui s'approchent de devenir eux-mêmes des maîtres, alors.
Voilà. Mais le thème d'immortalité est présent... Ce thème est présent dans beaucoup de philosophies, dans le platonisme par exemple, l'immortalité de l'âme. C'est quelque chose de central et dans toutes les mythologies grecques en fait on trouve ce thème.
Mais alors c'est intéressant, ce qui est immortel c'est pas l'homme mais c'est l'âme.
Voilà, c'est une nature en nous, céleste par rapport à une nature terrestre, une nature donc spirituelle, le monde de l'esprit. Alors ça peut être le monde de l'âme, psyché ou le monde du spirituel en tant que spiritus de l'esprit. On dit de le pneuma aussi, le soi, le nous, ça a plusieurs noms. Mais voilà, il y a en tout cas ces aspects-là en nous qui ne sont pas liés au cycle du temps. Ou alors qui s'en échappent, qui sont liés à d'autres lois.
Alors, est-ce qu'on peut passer très rapidement, David, en revue les grandes traditions ? Dans le christianisme, par exemple, alors on parle de l'âme, on parle de la résurrection.
Voilà. C'est le thème central du christianisme. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de christianisme.
Ouais.
Donc c'est intéressant de voir que cette religion est entièrement basée sur ce principe. Jésus est ressuscité. Donc, symboliquement, alors il y a des phrases et des très belles phrases chez Paul dans ses épîtres. Paul, on sait que c'est l'apôtre qui a...
Beaucoup disséminé le christianisme.
C'est lui qui est derrière l'origine, la fondation du christianisme, et il y a cette notion de corps incorruptible. Il y a cette idée que si on imite le Christ, ou Christ en vous l'espérance de la gloire, cette gloire, c'est le rayonnement, c'est la lumière en fait, hein. Il y a cette notion qu'on a un corps incorruptible en nous, et Saint Paul explique qu'on a trois aspects en nous, et que ce corps incorruptible appartient à la nature supérieure. Alors il parle d'un corps terrestre, qui lui est donc est le corps de poussière, hein, le corps, la dent terrestre. Et il y a un corps spirituel, un corps psychique, pardon, qui correspond à l'âme, et un corps spirituel, au pneuma, au Saint-Esprit, au souffle divin, à la monade, on dirait. Et donc, Paul explique très clairement que si on veut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume des âmes, c'est pas avec un corps de chair et de sang. Et ça, c'est vraiment très important. Ça montre qu'on a mal compris la résurrection. On le comprend beaucoup, même au jugement dernier, comme des gens qui vont revenir dans leur corps de chair, mais c'est pas du tout ça. Le thème de la résurrection, c'est un corps de lumière. C'est un corps de lumière, c'est un corps spirituel incarné. Jésus donc représente celui qui a été, comme on le sait, maltraité, torturé et puis après crucifié, et qui revient du royaume des morts 3 jours après. Et il représente cette espérance, cette gloire dont parle Paul. Et en fait, si le Christ est en nous, si on est parmi le Christ ou avec le Christ, si on laisse le principe christique s'exprimer en nous, ce corps incorruptible va prendre le dessus et on va devenir un immortel. Donc c'est en fait une idée très apparente, très très proche de celle des mythologies, des philosophies antiques, comme celle du platonisme qui a beaucoup inspiré le christianisme, on le sait, hein. Platon parle de l'immortalité de l'âme constamment.
Donc c'est l'âme qui est immortelle, mais on peut quand même garder le même corps. Jésus a gardé le corps ou parce que certains croient qu'à la résurrection, oui, comme tu disais, on va garder son corps actuel, mais non, c'est un corps de lumière. Donc
C'est un corps de lumière qui va prendre l'apparence physique.
voilà,
Les
les
maîtres
maîtres de
de sagesse,
sagesse peuvent prendre une apparence physique quand même, oui.
voilà. Mais
D'accord.
ce n'est pas un corps de chair, ce n'est pas un corps qui peut saigner. C'est pas un corps qui respire comme le nôtre, c'est pas un corps qui a besoin de dormir. C'est un corps vraiment de lumière, mais qui peut prendre forme.
Qu'on voit, mais c'est une illusion de notre part, si je comprends
Ouais,
bien.
c'est vraiment pas créé avec. C'est pas créé de la même manière. C'est pas créé avec des particules involutives comme le nôtre qui vieillissent.
Mais on peut le toucher quand même.
On peut le toucher, mais il peut apparaître, disparaître. C'est une technique connue au Tibet, par exemple, qui est la technique de visualisation créatrice, qui permet de créer des images jusqu'au point de les matérialiser. Donc on peut dire que le corps des maîtres, c'est le corps de leur image, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et ce corps est composé exclusivement de lumière.
Alors, est-ce que dans d'autres traditions, David, on parle aussi de cette immortalité
Oui,
chez...
par exemple, chez les soufis, il y a l'idée que, donc les mystiques musulmans, il y a l'idée que celui qui pratique suffisamment l'ascèse va renaître ou va passer ou vivre dans son corps de lumière. Le thème de la lumière est aussi très important. Il y a l'idée dans le soufisme qu'on a un ange, qu'on a un ange.
Gardien ou...
Oui, enfin c'est plus qu'un ange gardien, c'est que en fait que notre âme est un ange, comme Gabriel qui est apparu, qui est descendu. À l'intérieur, dans la tête, quelque part, qui a inspiré le prophète Mohammed, il y a cette idée que donc le soufi peut devenir un corps de lumière et réintégrer une confrérie de soufis, de maîtres en fait, de sagesse, d'êtres de lumière, qui deviennent à leur tour des sortes de messagers d'Allah. Et on a même aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'idée des grands prophètes qui forment une sorte de communauté. On a ça exprimé chez Daniel, par exemple, le prophète Daniel, qui a donc une communauté avec Adam, Noé, etc. Donc ces patriarches qui sont des êtres qui vivent. Par exemple, même dans le Coran, il est question à un moment de la montée du prophète Mohammed dans les cieux, à partir du mont du Temple. Et c'est bien expliqué dans les hadiths, les textes accompagnant le Coran, que sur chaque plan, il rencontre un prophète. Donc il y a quand même cette idée, même chez les religions monothéistes, qu'il y a une survivance de ces grands esprits-là, qu'il y a des êtres immortels. On a ça aussi dans le bouddhisme avec les grands bouddhas, les bodhisattvas et les dhyani bouddhas, qui vivent chacun sur des sphères différentes. Et que certains courants bouddhistes ont été inspirés par l'intervention soit d'un grand bodhisattva, soit d'un dhyani bouddha. Donc voilà, telle lignée, par exemple, bouddhiste est inspirée par tel bodhisattva, par exemple. Et on a ça aussi chez les taoïstes, avec les augustes, les patriarches, les dieux. Lao Tzu et Confucius ont été divinisés. En fait, on sait que ce sont devenus des maîtres de sagesse. On a ça vraiment. Alors, dans l'hindouisme, c'est encore plus vrai. On a les anciens rishis, on a des grands yogis, les grands mahatmas que l'on retrouve dans la théosophie de Madame Blavatsky, qui ont été jadis des êtres, même qui sont cités dans les Védas.
Donc l'ensemble des traditions sur Terre, en fait, corrobore l'existence d'êtres devenus immortels.
Voilà, des sortes de messagers, d'êtres qui auraient un corps céleste, un corps de lumière, en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils planent. En fait, ésotériquement, les maîtres sont présents sur le plan physique, mais soit dans un corps d'apparence physique, dense, soit dans un corps éthérique. Mais dans les deux cas, c'est un corps de lumière qui soit reste de la lumière, soit se densifie. Et donc, ils ont, comme idée orientale, ils ont fait cesser le cycle des renaissances.
Ok David, bon ben on va faire une première pause et puis se retrouver tout à l'heure. Je crois que je vais te demander comment ça se passe en fait, comment est-ce qu'on fait concrètement pour devenir un immortel? Écoutez La Grande Approche, cette émission consacrée aux maîtres de sagesse qui sont des immortels, avons-nous dit. Nous avons vu jusqu'à présent qu'on retrouvait cette notion dans les grandes traditions religieuses du monde, dans les mythologies aussi. Et alors David, j'aimerais maintenant que tu nous expliques comment diable peut-on devenir immortel et donc un maître de sagesse.
Alors l'immortalité, on peut l'expliquer en faisant référence à la constitution de l'homme et la constitution subtile de l'homme.
C'est la constitution, c'est de quoi un homme est fait, quoi. De quoi
Voilà.
sommes-nous faits?
Qu'est-ce qui nous constitue? Alors, il y a bien sûr le corps dense que l'on connaît, que la science a largement étudié. Un corps fait de solide, de liquide, de gaz, et de nature ignée aussi, avec du feu, de la chaleur physique. Et il y a après un corps plus subtil, qui là n'est pas reconnu par la science, mais qui est reconnu et utilisé dans les techniques de guérison spirituelle, dans l'acupuncture. Ce sont les fameux méridiens d'énergie et les zones où les méridiens s'entrecroisent, les fameux chakras, et le corps subtil, qu'on appelle éthérique, en référence à la tradition grecque, hein, l'éther. Le corps du ki pour les Japonais, du chi pour les Chinois, le ka égyptien. Et on a aussi d'autres noms, j'ai vu ça dans les traditions scandinaves et autres, on a toujours cette idée qu'on a un double subtil. Comme un fantôme un petit peu, hein, qui est autour de nous et qui est l'archétype du corps que l'on a. C'est-à-dire, il ressemble, c'est comme notre double subtil quelque part. Et c'est ce corps-là qui va prendre la place au fur et à mesure du corps dense. Et il y a le corps émotionnel qui vibre, qui fait de particules différentes. Mais c'est vrai, on l'appelle un corps parce qu'il forme un ovoïde, mais il est fait de nature psychique émotionnelle. Et une nature encore plus subtile, le corps mental, l'âme, différents niveaux, on ne va pas rentrer là dans le détail, au niveau de l'âme, et l'étincelle qui est la source de tous ces corps-là, qui donne la vie à tous ces corps. Donc comment on devient immortel? C'est au fur et à mesure, par une ce corps énergétique, ce double subtil, on va l'appeler ce corps éthérique, hein, reçoit les énergies des autres corps, donc des autres dimensions psychiques de notre être. Des émotions, des pensées, de l'énergie de l'âme, des énergies spirituelles, voire même directement de l'énergie du soi. Et au fur et à mesure, donc, il absorbe, par le processus d'évolution, il absorbe ces énergies du
Mais
terrain.
avec dans le temps quoi, avec le temps qui
Voilà,
passe,
avec le
d'accord.
temps. Donc il faut partir du principe aussi qu'on ne peut pas s'immortaliser en une vie, donc qu'il y a un cycle de renaissance, qu'il y a une âme qui survit. L'immortalité de l'âme, c'est ça. Elle est la première à être immortelle quelque part. Enfin, l'âme n'est qu'un messager même pour le soi. Mais que l'âme revient cycliquement à travers des enveloppes mentales, émotionnelles et physiques différentes à chaque nouvelle naissance. Donc au fur et à mesure, par le processus de l'évolution, et ça va en s'accélérant, dès que l'âme vraiment commence à prendre le contrôle du cerveau de l'homme, sur le plan physique, là, des changements définitifs vont se faire. Et à partir de ce moment-là, la lumière du corps éthérique s'intensifie, va commencer à littéralement transmuter, faire disparaître les particules physiques. Et il y a un processus de substitution. C'est-à-dire que le corps énergétique, il n'est pas seulement à l'extérieur, il est à l'intérieur, tout baigne dedans. Hein, et même chaque cellule baigne dans cet océan éthérique, dans ce corps-là. Et au fur et à mesure, ces particules de dense matérielle se subtilisent, se rarifient au point de disparaître et sont remplacées par des particules de lumière. C'est-à-dire les particules de lumière prennent le pas.
On devient de plus en plus évanescent alors.
Voilà, de plus en plus éthéré, subtil, jusqu'au point d'obtenir un corps fait entièrement de lumière. Alors il y a des codes-parts comme ça qui correspondent à des stades initiatiques. Au début, à la première initiation, lorsque l'âme prend le contrôle du plan physique, il y a trois quarts de matière physique et un quart de lumière qui domine. Puis après, il y a la moitié de la lumière qui domine à la deuxième initiation quand on maîtrise le corps émotionnel, quand l'âme le maîtrise. Puis quand l'âme maîtrise, c'est-à-dire elle purifie, elle transmute, hein, elle maîtrise le corps mental, il y a des couches en fait qui correspondent en fait dans le corps éthérique et qui agissent aussi sur le corps physique. Et là, on est aux deux tiers composés de lumière. Puis à la quatrième initiation, quand l'âme elle-même disparaît au profit du soi, il y a trois quarts de lumière, il n'y a plus qu'un quart de matière atomique, hein, de matière physique dense connue. Puis après, à la cinquième initiation, on devient un maître et le corps de lumière est uniquement présent, mais par magie, je ne sais pas comment l'expliquer, ce corps peut donner l'impression qu'il a une apparence physique dense. C'est vraiment qu'une impression, c'est un Maya Virupa, c'est un véhicule qui est illusoire, c'est pourquoi on appelle ça ainsi. On dit aussi dans le bouddhisme, on dit Nirmanakaya. Les Bouddhas se créent un Nirmanakaya, c'est un kaya, c'est le corps, et Nirmana, c'est fait par le manas, par la pensée. Mais c'est la même idée. Et c'est le corps qu'aurait eu Jésus, que le corps repris. Le Christ reprend le corps de Jésus, et ce corps passe des trois quarts de lumière qu'il était à 100% de lumière. Et d'ailleurs, quand il reprend ce corps, ça donne une telle intensité de lumière que ça crée une forme de ionisation, et par inversion, une image est déposée sur le fameux sphère. Image que l'on ne s'explique
Et il
pas.
apparaît resplendissant et tellement différent que ses proches, en fait, ne le reconnaissent pas ou difficilement.
Voilà. Alors, le coup des plaies, tout ça, ça a été probablement rajouté, parce que je ne pense pas qu'il y avait du tout les plaies, et qu'il était au contraire différent au point où on a pu douter que c'était Jésus, comme tu le dis. Alors, ésotériquement, ça représente le passage à 100% de lumière. D'ailleurs, après, l'ascension, c'est montre que ce corps disparaît.
Alors donc là on essayait de voir comment ça se passe. Donc tu nous donnes un peu la comment dire
L'explication.
l'explication ésotérique, mais comment on s'y prend?
Comment on s'y prend? Par la méditation et par le service. En développant des qualités de plus en plus grandes, en développant le sens de l'universalité, le sens de la fraternité, en développant des qualités spirituelles, le bien, le beau, le vrai, dirait Platon, toutes ces qualités spirituelles, littéralement, transforment le corps. Parce qu'elles sont accompagnées toujours d'une énergie, avec une fréquence vibratoire, un feu, on pourrait dire, supérieur, qui va brûler, manger, transmuter les particules inférieures.
D'accord, donc ça petit à petit dans le temps, et combien de vies ça prend avant qu'on soit des maîtres de sagesse?
Alors il faut des milliers de vies avant d'arriver au port de cette première étape initiatique, mais après quand on passe la première initiation, Alors il en faut plusieurs, mais c'est une poignée de vie après qui se vivent. Hein. C'est-à-dire, c'est une phase, on parle de radiation active. Et dans chaque règne, il y a une phase de radiation, de radioactivité. On connaît celle du règne minéral. Les pierres les plus évoluées, comme l'uranium, plutonium, émettent de la radioactivité parce que justement, elles se libèrent de leur corps. Donc elles libèrent un rayonnement qui est nocif pour nous d'ailleurs, on le sait. Mais ça, selon les maîtres, ça s'opère dans tous les règnes. Dans le règne végétal, ce sont les fleurs avec leur parfum qui émanent cette radiation sous forme de parfum. Pour les animaux les plus évolués, c'est par la domestication et le développement de cette forme de mental embryonnaire que les animaux se préparent à passer dans le règne supérieur. Et pour nous, c'est l'initiation. Donc on a une lumière qui s'exprime de plus en plus par le corps, qui sort du corps, comme si on mettait une intense lumière dans un corps et qu'au fur et à mesure, l'abat-jour devenait de plus en plus fin. Et donc cette lumière irradie au point de devenir un pur corps de lumière, le corps incorruptible dont parle
Donc
Paul.
pour arriver là, travaillons quoi, la vigilance, la présence, essayons d'irradier ce que nous sommes au fond de nous-mêmes.
Le meilleur moyen, c'est de servir. Quand on est impliqué pour servir, aider l'humanité, pour le bien commun, tout ce qu'on accomplit avec abnégation, détachement, on l'a dit souvent, hein, c'est en développant les relations justes, en développant donc le sens du sacrifice, le sens du service, en méditant, tout cela aide. C'est complexe, mais en gros, grosso modo, la méditation et le service sont les deux grands leviers. C'est-à-dire la méditation, l'art. C'est pas forcément croiser les jambes et puis fermer les yeux, mais c'est le fait de pouvoir élever sa conscience, de pouvoir se rattacher à quelque chose de plus grand en soi. Et le fait d'exprimer cette nature profonde dans une activité bienfaisante pour le bien commun. À ce moment-là, on change de fréquence. Hein, on est comme une radio, en fait, un appareil. Hein, on peut passer dans les petites ondes, les grandes ondes, on peut changer avec un bouton. Le bouton, c'est la conscience. Si la conscience monte, la fréquence monte tout de suite. Et on capte d'autres ondes quelque part. Donc le corps nerveux, le corps, donc le système nerveux, les glandes répondent tout de suite. On pourrait mesurer, on a déjà commencé à mesurer l'effet de la méditation sur le corps. Donc on sait que le changement de niveau de conscience change le taux vibratoire.
Oui, c'est vrai. Les gens sont moins malades. Hein. Ils ont même des réductions de leur police d'assurance aux États-Unis.
Ah bah tu vois.
Allez, on se retrouve tout de suite. Écoutez toujours La Grande Approche, cette émission consacrée aux maîtres de sagesse. Et donc, qui sont des immortels, ces grands immortels? Nous avons vu dans un premier temps qu'on retrouvait cette notion dans les grandes traditions religieuses, dans les mythes. Et dans un deuxième temps, David, tu as essayé de nous expliquer comment techniquement ça se faisait qu'on devienne immortel. Et puis, on a essayé juste d'évoquer, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire chacun pour s'approcher de ça. On a vu que ça prenait beaucoup de vie et puis qu'il y avait deux pratiques, disons, qu'on pouvait entreprendre pour accélérer le mouvement, c'est rendre service. Et puis la deuxième chose, c'est pratiquer de la méditation. Alors, je voudrais qu'on revienne à ces immortels. Est-ce que dans le monde, moi, je veux bien croire en leur existence, a priori, bien sûr, mais dans le monde, est-ce qu'on a des signes qui nous montrent, hein, est-ce qu'on a un peu des éléments qui nous aideraient à croire à tout ça, à croire en leur existence, à les voir?
Il y en a de nombreux, mais le premier qui me vient à l'esprit et que je voudrais commenter et qui touche directement à notre sujet, c'est les corps incorruptibles des saints. On connaît ça, hein? Certains grands saints meurent et le corps ne semble pas se décomposer ou pas aussi vite que d'ordinaire. Et on prête même parfois des vertus. C'est très connu, pas seulement dans le christianisme, en Inde. Par exemple, en Inde, sur beaucoup de temples, le temple a été créé parce qu'il y avait le corps d'un grand saint
Oui.
qui était enterré. Et ce corps était censé irradier de l'énergie spirituelle bénéfique. Et donc, dans le corps de ces grands saints, il y a parfois des odeurs, des parfums qui s'en dégagent,
Oui.
hein, qui renvoient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le règne végétal qui émet ses parfums. Et donc, il y a des parfums plus subtils, il y a des sons aussi, des couleurs qui accompagnent toujours chaque état énergétique. Donc, c'est la preuve que ces saints ont une quote-part de lumière plus importante qu'un corps ordinaire. Donc le corps, les particules physiques restantes, semblent demeurer dans cette lumière assez longtemps. Et parfois, il y a même des maîtres qui utilisent, qui galvanisent encore ces corps-là, parce que ce sont des sortes de reliques, et on trouve ça aussi dans le bouddhisme, hein. Vraiment, même dans l'islam, ces corps sont parfois maintenus, ou du moins l'énergie à travers ces corps est maintenue.
Au profit des fidèles qui sont
Voilà.
autour, oui.
Donc ça, c'est un des signes, mais il y a bien sûr de nombreux signes qui montrent qu'il y a des immortels, des êtres qui demeurent. Mais d'abord, aussi en nous, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe avant de parler des maîtres directement? Les signes que l'on est immortel, déjà, on peut se sentir immortel. On peut avoir le sentiment qu'il y a une partie de nous qui demeure éternellement, qui ne meurt pas, qui ne va pas mourir après la mort. Ça, des gens ont cette intuition ou ce sentiment, ce vécu intérieur.
En tout cas, ceux qui ont vécu des expériences au seuil de la mort en sont absolument à 100% convaincus, et ils sont très nombreux à témoigner maintenant.
Et elles sont universelles, ces expériences. C'est ça qui est étrange. Aux quatre coins de la planète, les gens racontent un petit peu hein, le couloir, la lumière, parfois un ange qui leur dit non, c'est pas le moment, on redescend, ou un maître, ou leur âme peut-être. Et donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi des expériences voilà, qui prouvent qu'il y a une forme d'universalité et un côté. Il y a un côté invisible. Il y a aussi tous ceux. La période au 19e siècle avec les expériences spirites où on essayait de contacter les âmes des défunts, et même encore maintenant, donc ça prouve avec le phénomène de la radio, il y a parfois des contacts et on dit par exemple, bah oui, l'entité qui est passée de l'autre côté a les preuves et montre qu'elle connaît très très bien l'appartement, elle va dire trouve ceci là, etc. Ou elle porte des éléments biographiques sur elle ou sur le sujet encore vivant qui montre que, en tout cas, il y a un contact, il y a une intelligence de l'autre côté.
Ouais.
Ça, c'est des preuves d'immortalité, de la survivance. Et ou alors, on peut aussi se souvenir ou avoir l'impression de se souvenir de ses vies passées. Ou alors, on a des capacités chez les génies, les enfants très évolués. C'est ça, un génie, c'est un enfant très évolué qui grandit après et qui a de plus en plus accès à son réservoir personnel de vie, donc à ses acquis.
Alors
Comme
ça va.
Mozart, qui à 4 ans compose un premier concerto.
Donc tu veux dire que dans une vie d'avant, probablement, il avait
Plusieurs même.
déjà travaillé
Il a
dans la
beaucoup
musique, quoi.
travaillé.
Ouais.
C'est forcé. C'est comme les peintres qui. Je crois que c'était Giotto qui s'occupait de garder des moutons, là, et puis qui dessinait déjà sans avoir pris aucun cours. Donc ça, ça milite quelque part pour cette notion de survivance. Ça
Ouais.
porte des preuves. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des êtres dans le monde qui sont immortels et qui laissent des signes? Là, oui, il y en a énormément.
Oui, parce qu'on parle quand même de deux choses différentes. Il y a l'immortalité de l'âme qui veut dire on va se réincarner, mais on va toujours se réincarner en tant qu'être humain. Et puis il y a l'immortalité au sens des immortels, qui sont des maîtres de sagesse, qui sont des êtres qui n'ont plus besoin de s'incarner, qui ont une autre stature
Oui,
que.
mais les deux sont possibles parce que l'immortalité fait partie de nous.
Oui.
Les maîtres ont simplement révélé entièrement cette nature. Et nous, elle est plus ou moins éveillée en nous et on en a des signes quelque part.
Oui.
Déjà par la survivance, qu'il y a d'autres plans, que ça ne s'arrête pas à la matière, et par les qualités de l'âme, par ce qu'on disait sur le sentiment d'immortalité. Mais les êtres immortels, alors on a par exemple dans toutes les religions, parfois des manifestations, avec même apparition, de Jésus, de la Vierge, de grands saints, en Inde, il y a des manifestations aussi de maîtres.
Donc ces maîtres de sagesse, donc ces immortels, sont à l'origine de ces manifestations.
Tout à
Ils
fait,
font
ce
des petits
sont...
coucous à l'humanité.
Voilà.
Il y en a un qui est particulier, c'est celui qu'on appelle Saint-Germain, le comte de Saint-Germain.
Voilà, c'est le seul maître en Europe, en dehors de des maîtres à caractère religieux. Lui, il n'avait pas une mission, un travail religieux. Et je me souviens qu'Alain de Caux disait de lui que c'était l'énigme de l'histoire parce qu'il y a des documents historiques qui prouvent qu'on le voit sur environ 200 ans.
Ouais.
Donc il naît à la fin du XVIIe siècle. On dit que ce comte a été jadis Francis Bacon et encore avant Roger Bacon.
Ça, c'était dans des vies antérieures.
Voilà.
Ouais.
Il revient, il va avoir plusieurs noms, notamment celui de comte de Saint-Germain. Et il va passer en une vie, il était pratiquement au quatrième degré, donc ce qu'on disait, c'est ses trois quarts de lumière, et il va vivre suffisamment longtemps et maintenir son corps pour passer cette cinquième initiation et devenir un maître. Et
D'accord.
donc des gens vont le connaître, il y a des marquises qui le voient lorsqu'elles sont très jeunes, et elles le revoient, elles ont vieilli, il n'a pas vieilli. Alors il y a cette notion de pierre philosophale, d'alchimiste, que c'était un alchimiste, mais en fait c'est tout simplement le résultat de la spiritualisation de son corps. Et il est
Peut-être
devenu un
juste
maître.
pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est un alchimiste, si tu veux, c'était un scientifique, c'était un.
Un musicien, il connaissait plein de langues. C'est un homme qui a beaucoup fréquenté les grandes cours d'Europe. Donc c'est un
Voilà,
aristocrate quand même.
il était à la cour du roi de France et il rencontrait une marquise et il racontait à la marquise comment était la grand-mère de la marquise en question.
Voilà.
Et la marquise disait, mais comment vous savez tout ça sur ma grand-mère? Il disait, mais je l'ai connue à Florence, en Italie, en telle année.
C'est le
Et
fils de.
c'était 50 ans plus
Voilà,
tôt.
c'est Rákóczi II, en fait. Hein. Donc, il descend de la famille Rákóczi, grande famille austro-hongroise.
Ouais.
Et donc, il a parcouru différents pays comme ça d'Europe, il a fréquenté les différentes cours européennes, et il a fait des choses, dit des choses assez incroyables.
Il manifestait des bijoux, je crois, hein, des joyaux, des diamants, ou je sais pas, des.
Alors, bon, on peut dire que tout ça, ce sont des fables, ou alors se dire maintenant, il y a peut-être quelques traces ici ou là. De ces êtres-là. Il y en a beaucoup plus en Orient, en Chine, on les appelle Xianren, les hommes immortels. Et dans des textes et dans l'imagerie populaire, on sait qu'ils apparaissent à certains moments, qu'ils apportent des remèdes, qu'ils transmettent des enseignements, qu'ils guérissent. Le mot même Xianren, c'est intéressant au niveau de l'idéogramme, ça représente, si je me souviens bien, un homme et puis des montagnes. C'est l'idée qu'ils sont reculés dans des montagnes, et il y a une notion aussi d'élévation. C'est pour ça que dans les films chinois, on a constamment des hommes qui volent. Ça fait référence à eux, en fait, à ces êtres volants. Souvent, ils sont montés sur des grues célestes, et ils voyagent. Il y a cette notion dans le taoïsme aussi de sortie de corps et de voyage dans d'autres plans. Et ça fait référence aux Xianren, aux hommes immortels. Donc, mais partout dans le monde, on a vraiment la trace. Mais on a beaucoup de miracles qui font appel à ces êtres-là. Des miracles à caractère religieux. Et alors à ce moment-là, on n'a pas d'explication, je dirais, naturelle
Rationnel,
en
ouais.
dehors d'une intervention extérieure qui a pu déclencher les statues qui suintent, parfois statues qui versent des larmes de sang, des signes divers et variés dans chaque religion. Qui les a créés? Qui a fait ces signes-là?
On ne sait pas, oui.
On ne sait pas.
Alors, selon sa religion, on va interpréter. On va dire c'est Dieu, c'est Allah,
Voilà.
c'est
Et
de
dans les religions
l'interprétation.
monothéistes, proprement dit, Dieu n'intervient pas directement, il intervient toujours par un messager.
Ouais. Des intermédiaires.
Voilà. Et alors, ces messagers sont des anges, mais d'un point de vue ésotérique, ce sont des maîtres, en fait. La majeure partie du temps, ce sont des maîtres de sagesse. Les anges existent aussi, ce sont d'autres êtres qui composent la nature, mais il y en a qui sont d'un stade plus élevé encore, eux aussi dans des corps de lumière, mais en général, souvent, ce sont des hommes, parce qu'en plus ils prennent une forme humaine. On a ça dans la Bible. On a Abraham ou Lot qui rencontrent deux anges qui arrivent, qui mangent avec eux, etc. Enfin, vraiment des choses très très bizarres. On a aussi l'idée que Gabriel a pris forme humaine dans les hadiths et il ressemble étrangement à Jésus. Et dans les enseignements ésotériques, on dit qu'en fait, l'ange Gabriel, c'est tout simplement le maître Jésus qui a travaillé à travers le prophète Mohammed. Parce que Jésus était devenu un maître. Donc en plus, on voit que les religions sont liées entre elles. Pas du tout séparés comme on peut se l'imaginer.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté au fil de l'histoire à l'humanité, c'est.
Ils ont inspiré l'humanité dans tous les domaines. Donc il y a les signes à caractère religieux, bien sûr, les miracles, mais il y a des découvertes scientifiques, il y a des nouveaux systèmes d'éducation, des systèmes politiques, il y a des inspirations dans le domaine culturel. En fait, la culture est le fruit de l'inspiration des maîtres si on croit à leur existence.
Donc ils inspirent les grands idéaux du moment, les grandes idées, les grandes valeurs d'une civilisation.
Il dépose dans le mental de l'humanité certaines idées germes, des idées qui vont germer, qui vont se développer. Littéralement, c'est de la lumière.
Ouais.
Et cette lumière, parfois, ils inspirent directement des disciples pour découvrir des choses, pour faire tel ou tel travail. Mais de façon générale, ils travaillent plus volontiers à travers des groupes et inspirent largement l'humanité à elle d'être suffisamment sensible, réceptive. On parlait de fréquence. C'est ça, hein, c'est. Il faut se mettre sur leur fréquence, au moins sur la fréquence du plan mental, voire du mental supérieur, pour commencer à être sensible à l'inspiration de ces grandes idées. Hein.
Donc l'idée générale aussi derrière, c'est de dire que comment dire, les grandes figures des différentes traditions, par exemple les chrétiens pensent à Jésus ou à la Vierge, peuvent se manifester, mais que ce que tu disais, en fait, ce sont des maîtres qui prennent l'apparence de Jésus ou de la Vierge de façon à ce que ça fasse sens, tout
Ce sont
simplement.
souvent les maîtres eux-mêmes, c'est-à-dire celui qui a été Jésus, celui qui était la Vierge,
Ouais,
historiquement,
ouais.
qui apparaissent. Ou alors, si les maîtres n'apparaissent pas, ils vont faire sentir leur présence. À travers nombre de signes, il y en a des milliers depuis surtout 30 ans, parce que les maîtres reviennent dans le monde.
On va y venir après ça, oui, je crois.
Donc, il y a. C'est rare, c'est assez rare que les maîtres. Se présente, mais il y a aussi beaucoup, chez beaucoup de disciples assez avancés, il y a eu beaucoup de cas où les disciples avaient un entretien avec le maître, c'est-à-dire que le maître se manifestait et était connu et vu. Et je te cite un exemple. Madame Blavatsky, qui est la première à avoir fait connaître l'existence des maîtres de sagesse, elle recevait beaucoup de monde à New York dans son appartement, et les gens ont pu assister, ils ont vu sortir de la fenêtre, enfin rentrer de la fenêtre plutôt, son maître. Le maître Moria, qu'on avait déjà vu lors de l'exposition universelle en 1851, où Madame Blavatsky l'avait rencontré, on l'avait pris, peut-être pas pris en photo, mais on avait écrit des articles sur lui, parce qu'il ne voulait pas rencontrer la reine d'Angleterre, alors que tous les grands hindous voulaient le faire, pas lui. Et donc, on a vu, c'était le maître de Madame Blavatsky, qu'on appelle le maître Moria, beaucoup lié à l'histoire de l'Inde, et à un moment, il a disparu par la fenêtre. Et il y a eu des articles. Donc, on a pu voir. A pu avoir des signes, c'est complètement mystérieux, on ne pouvait pas s'expliquer comment il pouvait sortir. Il y a des gens de la société théosophique qui l'ont vu, parfois il s'est matérialisé devant eux, il y a eu plein de choses, mais ensuite on crie à la supercherie, à l'imagination et autres, parce qu'on ne peut pas s'expliquer et accepter cette idée qu'il y a toujours eu des immortels, mais qui étaient retirés, mais qui nous aidaient. Et là, depuis 150 ans, on s'approche d'une ère, d'un moment où ils peuvent revenir.
On en voit de plus en plus. Ça me rappelle aussi un événement qui est survenu beaucoup plus récemment, puis c'était en 1988 au Kenya, où tout d'un coup, lors d'une réunion de prière, mais il y avait quand même 6 000 personnes, est apparu à côté de la personne qui animait cette réunion, comment dire, un être, un homme, un maître. Je ne sais pas, en tout cas, les gens l'ont reconnu comme étant Jésus-Christ, puisque c'était une réunion de chrétiens. Et il a parlé pendant une vingtaine de minutes. Il a été pris en photo. Il se trouve qu'il y avait un journaliste du Kenya Times et son photographe. Donc c'est comme ça qu'on l'a su après, parce qu'on l'a vu dans les journaux. C'est même passé sur CNN, dans les journaux au Japon, etc. Et puis, au bout d'une vingtaine de minutes, il a disparu littéralement comme il était apparu. Et il a laissé vraiment une trace. J'ai un ami qui est retourné là-bas, David, à cet endroit, près de Nairobi. Et qui me dit que les lieux ont été gardés un peu comme un sanctuaire et que plein plein de gens viennent encore se recueillir à cet endroit. C'est resté dans les mémoires, c'est resté d'une apparition comme ça. Donc, ben, cet être-là, un Christ, peut apparaître, disparaître. Il y a d'autres cas, certainement.
Oui, il y en a. Avant, il y avait quelques miracles dans une ville ou une autre, et puis ça durait, on en parlait longtemps. Mais depuis 30 ans, on est assommé.
Il y en
Il
a
y a
tellement, ouais.
d'innombrables miracles partout qui ne sont pas assez relayés par la presse. Dans le journal de Benjamin Crème, Partage International, ce magazine a pour rôle d'ailleurs de relayer toutes ces informations-là. Il y en a pléthore. Donc il se passe quelque chose. On est à une époque où, semble-t-il, les maîtres se rapprochent, ont décidé de se rapprocher de l'humanité.
Ok, on va aborder cette question après la pause, David. David, alors ces êtres immortels, ces maîtres de sagesse, donnent des signes de leur existence à l'humanité. Comme tu disais, depuis une trentaine d'années, de plus en plus de phénomènes miraculeux se produisent dans le monde. On les attribue, en tout cas certains auteurs les attribuent à ces maîtres de sagesse. Et il y a parmi ces maîtres un maître
Leader.
leader, ouais, qui est à Londres depuis 1977, selon certaines sources. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce
Alors,
maître-là?
son véritable nom, c'est Maitreya, qui était annoncé par le Bouddha, parce que le Bouddha était lui-même un maître et que Maitreya avait cheminé avec le Bouddha. Moi, j'appelle Gautama, hein. Gautama et puis Maitreya sont cités dans tous les textes, qui se connaissent et ont cheminé ensemble depuis des temps très reculés, donc il l'a annoncé sous son vrai nom. Donc les bouddhistes attendent Maitreya. Et Maitreya, la Maitri, c'est la compassion, c'est l'amour. Donc c'est Vishnu pour les hindous. Alors pour les hindous, Vishnu, donc Maitreya, en fait, a travaillé à travers Krishna également. Donc les hindous attendent Krishna, ou la dernière venue de Vishnu sous la forme Kalki, le cavalier blanc. Et les musulmans attendent le Mahdi. Le Mahdi, c'est celui qui est bien guidé par Dieu. Bien sûr, les juifs attendent le Messie, les chrétiens attendent le deuxième avènement du Christ. Mais Christ, Vishnu, ou Krishna, Mahdi, Messie, Messie et Christ, on sait que c'est pareil, c'est la traduction grecque, Christos de Machiar en hébreu, Messie. Tout ça, ce sont des vocables différents pour représenter Maitreya, c'est-à-dire celui qui est attendu par les diverses traditions. Alors, ce que nous dit Benjamin Creme, c'est qu'il est resté retiré du monde moderne, mais très actif dans l'Himalaya, et que depuis 1977, il s'est créé ce corps illusoire dont on parlait tout à l'heure, un corps indo-pakistanais d'une trentaine d'années, typiquement indien, quoi, hein, et il s'est établi dans la communauté indo-pakistanaise. Et là,
À
il s'est fait
Londres.
connaître, à Londres, pardon. Et là, il s'est fait connaître, il a participé par exemple à des causeries. Ça se fait beaucoup dans la communauté. Alors les Anglais disent asiatiques, mais nous, il faudrait comprendre hindous en fait. Hein. Donc une communauté faite beaucoup d'hindouistes et de musulmans. D'hindous en fait, de musulmans. Donc il a participé à diverses causeries et il a une sorte de collaborateur qui a pris beaucoup de notes et qui a rencontré deux journalistes, dont une des journalistes qui a plusieurs fois vu Maitreya. Patricia Pitchon et Brian James. Et ils ont couché en quelque sorte, par écrit, le résultat de ces causeries, elles-mêmes donc mises, collectées par ce collaborateur, et ça donne un livre merveilleux qui s'appelle Les lois de la vie, aux éditions Partage Publication, préfacé par Benjamin Creme, et ce n'est pas un livre de Benjamin Creme, c'est vraiment en quelque sorte le livre de Maitreya. Même ce sont, il y a parfois des paroles directes de Maitreya ou des résumés de ces causeries. Et donc ce maître passerait de mosquée en mosquée, d'ashram en ashram, comme cela, de temple en temple, et en dehors de son travail ésotérique, on pourrait dire, comme ça, participerait à nombreuses causeries. Il y a un homme qui est allé par exemple aux conférences de Benjamin Creme et qui avait pu assister à une de ces causeries.
Causerie de Maitreya.
Voilà. Et il a pu expliquer vraiment ce qu'il avait ressenti, que cet homme était... présentait vraiment un sage qui était entouré de plusieurs personnes autour de lui, qui était un peu gêné pour dire qui il était, ce qu'il était, et que sortait de lui une énergie assez incroyable. C'était quelqu'un de charismatique, de très magnétique, avec une aura spirituelle vraiment débordante, et que quand cette personne s'est exprimée, l'auditeur, enfin la personne qui, l'autre personne qui assistait à cette discussion et qui était donc à la conférence de Benjamin Creme, disait que elle avait l'impression que Maitreya, enfin ce sage, Benjamin Creme a confirmé que c'était Maitreya, que ce sage parlait directement à son cœur et à son esprit en termes très simples, et que ses paroles exprimaient une vérité. Donc quand on est en présence d'un sage, il y a des grands sages dans le monde, en Inde, il y en a eu des très très grands, tous ceux qui ont approché Ramana Maharshi pourraient dire la même chose. Lui restait dans le silence, ou Vivekananda, qui s'est fait connaître beaucoup aux USA. Il y en a eu des grands maîtres. Donc, quand ces maîtres s'expriment, il y a la justesse de leurs propos, il y a l'énergie qui accompagne. Il y a la lumière, en fait, de ces êtres-là qui touchent profondément. Donc ce sage, Maitreya, faut pas le voir comme un leader religieux. Il travaille dans tous les domaines, il coopère avec les autres maîtres, qui sont implantés un petit peu partout comme ça sur la planète. Il y en a 14 selon le maître de Benjamin Crème, parce que Benjamin Crème est en contact télépathique avec un des maîtres, et c'est comme cela qu'il informe depuis 30 ans de ce processus, des détails de ce processus.
Processus donc de retour à la vie publique, on peut dire, des
Voilà,
maîtres
de
de sagesse.
l'émergence. Et donc, Maitreya et les autres maîtres, eux, ne parlent pas entre eux, en fait. Ils peuvent se contacter télépathiquement. Si on peut se créer un corps, bah, on peut bien sûr.
Maîtriser la pensée. Si on
Voilà.
maîtrise la pensée, on maîtrise la télépathie, oui.
Tout à fait. Et ils se contactent entre eux, donc ils n'ont pas besoin d'être ensemble physiquement. Et donc, ils accomplissent toutes sortes de tâches dans le monde. On parlait des signes, mais ça, c'est pour interpeller l'humanité. Mais ils sauvent énormément de gens sans qu'on le sache. Quand on parle de miracles, par exemple, des gens sauvés d'accidents dans lesquels ils auraient dû mourir, trouver la mort inexplicable, c'est eux. Ils sauvent, ils guérissent plein de gens, ils inspirent plein de gens, ils inspirent l'humanité. Ils déversent surtout en permanence les énergies qu'ils reçoivent de sources plus élevées sur Terre. Et ces énergies font évoluer l'humanité. Donc, c'est le travail fondamental.
David, dans cette émission, on essaye de montrer ce mouvement de rapprochement entre les maîtres de sagesse et l'humanité. Nos invités nous décrivent avec leurs mots, hein, comment ils voient ce rapprochement dans un futur proche et un peu plus lointain. Comment toi tu l'expliquerais?
On peut le voir de diverses manières. On peut voir les idées de Maitreya, qui se font de plus en plus connaître d'elles-mêmes. Maitreya a implanté ses idées. Alors, il y a 30 ans, on pouvait déjà lire ça, hein. Même le livre dont on parle, c'est des communiqués de la fin des années 80, début des années 90. Et on voit qu'il y a des prophéties, il y a des prédictions. Et on peut voir que ça se met en place. Il y en a énormément comme
L'évolution du
ça.
monde tel qu'il l'envisageait est en train de se produire.
Voilà.
Et c'est positif, hein, inutile, enfin,
Bien
précisons-le
sûr.
peut-être, mais.
Mais l'idée centrale, c'est l'idée du partage. Que le partage va vraiment sauver le monde. Que c'est le moyen. On sera obligé de passer par le partage parce que c'est un acte spirituel de partager et que c'est la solution à nos problèmes dans le monde. Bon, bah ça, il y a 30 ans, on vous aurait traité d'utopiste. Alors que maintenant, c'est dans la tête
De
et
beaucoup de
parfois
gens,
dans
oui.
la bouche de beaucoup de gens. Donc
Qui
ça,
sont.
c'est un signe évident. En dehors de cette idée donc du partage et tout ce qui va avec, hein, partage, qui dit partage dit coopération et esprit de fraternité, il y a chez beaucoup de gens un positionnement, une remise en question. On voit soit les mythologies reviennent, beaucoup à l'heure du jour. On n'a jamais autant vendu de livres de philosophie. Donc les gens se tournent vers la philosophie. Alors il y a le mouvement New Age, qui a du positif et du négatif, mais qui montre un changement des consciences. Il y a partout dans le monde des gens qui essayent de penser autrement la vie. Tout ça, c'est l'impact des énergies des maîtres sur Terre, hein, parmi nous. Il y a des gens qui essayent d'être créatif. On a parlé donc des créatifs culturels, hein. Ce groupe qui existe aux États-Unis et qui se démarque des autres groupes déjà existants, mais je pense que ce groupe, il existe un peu partout.
Un groupe important, parce que c'est un quart de la population aux États-Unis, oui.
Voilà.
Qui veulent une autre civilisation, en fait.
Donc le développement des ONG, des associations, aussi pour moi, c'est un signe que les gens se regroupent ensemble et sont collectivement sous l'influence d'énergie spirituelle, sous l'inspiration. Le fait que les gens aussi s'engagent, défilent dans la rue. Euh,
Tu
donc on
parlais du service un peu plus tôt, hein.
voilà. Les gens ont envie de travailler ensemble, de se retrouver ensemble et de porter des valeurs communes, universelles, tournées vers le bien commun. Donc ça, c'est directement une influence spirituelle, une manifestation spirituelle. Et je dirais qu'avec les ovnis, parce que c'est un thème qui est parallèle, c'est un thème qui ne fait plus sourire. D'ailleurs, on peut en parler sur la radio librement. Même si les auditeurs peuvent réagir, pas être d'accord, se questionner, être surpris ou même très intéressés, il y a quand même une ouverture qui se fait. Il n'y a plus seulement les religions qui dictent ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas, en fait. Ça, c'est complètement nouveau, en fait, hein. Hein, on est sorti de ce carcan-là. Enfin, carcan quand il y a un seul groupe qui décide pour l'ensemble, hein.
Ouais.
Les gens ont tout à fait le droit de suivre une religion, mais on parle même de spiritualité laïque. Ça, c'est nouveau aussi, ce concept-là. Donc, il y a en tout cas une remise en question générale de l'opinion, et ce sujet des maîtres, ou des ovnis, des frères de l'espace, comme on les appelle, ne fait plus sourire. Et si on accepte l'existence des ovnis, l'idée qu'il y ait des êtres supérieurs qui viennent soit d'autres planètes, d'autres galaxies, on ne sait pas toujours. Ce que l'on sait de la bouche de Benjamin Crème, c'est que, en fait, ils viennent des planètes voisines, mais qu'ils existent justement en corps de lumière.
Ouais.
Et qu'ils ont des vaisseaux de lumière, tout simplement. C'est l'équivalent de leur avion, quoi. Enfin, des avions pour nous. Et si ces êtres-là existent, pourquoi il n'y en aurait pas sur Terre? En fait, c'est complètement lié. Si on accepte une évolution supérieure, celle des maîtres, aucune raison de ne pas accepter l'existence des frères de l'espace, et vice-versa.
Alors, donc ce leader d'entre les maîtres qu'on appelle Maître Yin, qui donc lui a un programme qui s'oriente vers le partage pour résoudre les problèmes, hein, lui
Urgent,
dit
imminent,
imminent, voilà.
il a d'autres grandes idées, le but c'est la réalisation du soi. C'est-à-dire que l'on devienne à notre tour ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qui veut être partagé. Donc c'est ça le fond du sujet. Comment il va se faire connaître? Il y a énormément de signes. Benjamin Crème dit qu'il a commencé à donner des interviews incognito, et que au fur et à mesure on va découvrir un homme. On ne saura pas son statut, mais on va découvrir cet homme, on va l'écouter, on va voir ses idées. Ce qu'a vécu l'homme là dans la communauté indo-pakistanaise lors d'une causerie, dont on va pouvoir le vivre à la télé et se faire nous-mêmes notre avis.
On pourra, chacun pourra décider ce qu'il en pense
S'il
et...
est d'accord avec ce qu'il dit ou pas, c'est pas l'idée d'être en dévotion envers lui, pas du tout, il recherche le contraire, hein. C'est l'idée que d'accepter, de considérer ses idées, de partage.
Il va déjà falloir penser que cet être-là donc n'a pas ne répond pas aux attentes de beaucoup de gens qui sont religieux et qui ne vont pas s'y retrouver. Un peu comme les Juifs n'ont pas reconnu en Jésus le Messie parce qu'ils imaginaient le Messie autrement que ce qu'a été Jésus. Parce que là, si tu me dis que Maître Yah va parler de partage, bon, beaucoup de gens vont peut-être voir en lui un leader politique ou social, mais pas forcément spirituel au départ.
Je pense qu'on voit dans les gens ce que l'on a comme attente aussi. Et lui, suffisamment large, suffisamment profond pour que les gens puissent voir en lui diverses choses. Parce qu'en plus, son discours ne sera pas élitiste, et il ne sera pas non plus dirigé vers une seule partie, vers un seul domaine. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on va voir que c'est un sage, parce que justement, il a un point de vue sage sur plein de domaines.
Alors Benjamin Crème aussi, puisque tu parles de cet auteur, annonce une manière extraordinaire pour Maître Yah, pour se faire connaître de l'humanité vraiment, cette fois en tant que maître de sagesse.
Oui, il dit qu'à partir d'un certain moment, les gens demanderont à en savoir plus sur lui, et qu'il y aura une grande émission qu'on pourra suivre sur plusieurs chaînes, peut-être même sur plusieurs radios. Et à ce moment-là, Maitreya, ce sage, donc, exprimera, révélera son identité, mais le fera de façon télépathique, comme il le fait avec les maîtres. Il démontrera ainsi sa nature spirituelle et expliquera
Donc télépathique avec
avec
tous
nous
les
tous.
auditeurs.
Voilà, tous ceux qui. Il enverra en fait des formes pensées que notre cerveau traduira dans sa propre langue, et on pourra faire l'expérience qu'il est un maître. L'expérience de son énergie, de ses idées, et il brossera le tableau général de l'histoire de l'évolution et des prochains pas en avant que l'on pourra faire si on accepte le principe du partage. Donc on voit l'arbre à ses fruits, c'est ainsi qu'on peut. C'est une très bonne manière, ma foi, si. Soit tout ce que l'on dit est faux et n'arrivera jamais, soit ça arrivera, mais c'est ou l'un ou l'autre, hein. Et c'est simplement en démontrant ce fait télépathique qu'on aura une preuve que les maîtres de sagesse existent.
Oui, s'il s'adresse à chacun télépathiquement, on pourra, et si c'est collectivement et vécu ensemble, on ne pourra pas nier le phénomène. Dire, tiens, oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé télépathiquement, et toi aussi, mon voisin. Ouais. Ça va changer la vie sur Terre.
Oui, alors c'est là qu'on va. Après, il présentera les maîtres, dont le maître Jésus, où certains pourront reconnaître le maître Jésus. C'est là qu'on verra, où certains auront vécu d'expériences avec Maitreya ou d'autres, et on pourra voir que l'immortalité existe,
Ouais.
que nous sommes nous-mêmes immortels, que l'on est comme eux, que ce sont des bouts de nous quelque part, qu'ils partagent cette divinité avec nous, et que en fait, si on est immortel, on peut donc révéler notre divinité et passer dans cet état supérieur d'êtreté, en fait, hein. C'est le message profond derrière, hein.
Ok, bah espérons que ça se produise rapidement, David.
Espérons-le.
Hein? Ça va changer la vie sur Terre. Eh bien, merci. Merci, David, d'avoir répondu à ces questions sur le thème de l'immortalité, cette fois-ci. Cette émission s'achève. Bonne soirée sur IDFM.
Merci à tous. Au revoir.
Et puis, à bientôt pour une nouvelle édition de La Grande Approche.